Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième émission d'Hashtag Info, le web mag réalisé par les étudiants du campus Sionnet. Cette émission sera présentée par Louison, étudiante en deuxième année à l'IUT Information et Communication. Bonjour Louison.
Bonjour Elena, elle sera donc également présentée par Elena qui est en première année dans le même IUT et que vous venez juste d'entendre au micro.
Aujourd'hui, nous revenons vers vous avec la thématique de l'entrepreneuriat et plus particulièrement de l'entrepreneuriat chez les étudiants. En début d'émission, nous recevons des professionnels entrepreneurs, M. Goudot, qui nous présentera son projet d'entrepreneuriat culturel, La Bulle, suivi de M. Dufour, PDG de l'entreprise Oranet, une entreprise spécialisée en services et ingénierie informatique. Afin de nous plonger dans l'entrepreneuriat étudiant, Mme Fraioli, référente entrepreneuriat dans le département GEA, nous présentera les projets qu'elle manage.
Puisque notre émission se porte également sur l'entrepreneuriat chez les étudiants, une enquête a été réalisée sur les initiatives prises par les étudiants. Vous pourrez ainsi entendre les projets de plusieurs groupes de GEA. Tout d'abord Lucille, une étudiante qui participe au projet CréaUT, complétée par la présentation des entreprises d'un autre projet entrepreneuriat avec Noémie et Maria. Enfin, nous retrouverons Guillaume, Sam et Hugo, étudiants à l'ICAM, qui nous parleront également du projet des entreprises. Guillaume était déjà venu à l'émission précédente nous parler de son potager d'appartement.
Mais finalement, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Et surtout, est-ce que les étudiants voient ce que veut dire l'entrepreneuriat ?
Alors, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Hein, voilà.
Alors oui, à mon sens, c'est créer sa propre entreprise.
Non, pas du tout. J'en ai absolument jamais entendu parler. Non.
Ouais, je vois ce que c'est. J'en ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond et qu'est-ce que c'est vraiment.
Ces étudiants ne sont sans doute pas les seuls à être perdus sur la notion de l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat est défini comme étant la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous contrôlez, faite par le professeur Howard Stevenson de la Harvard Business School. Cette poursuite implique de la motivation, la réalisation d'un rêve et une liberté poussant à la création de micro-entreprises. Elle implique surtout des ressources techniques, financières ou un réseau important venant de la famille ou des connaissances.
Pour que l'entrepreneuriat soit accessible aux étudiants, divers projets et sources de financement existent aujourd'hui. Il existe notamment 30 pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, qui sont plus couramment appelés pépites. Ils ont été créés pour être des guichets uniques d'accueil dans l'enseignement supérieur sur toutes les questions liées à l'entrepreneuriat. Ils sont financés par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Caisse des dépôts, et associent les collectivités territoriales et les partenaires privés. Ils permettent de favoriser la reconnaissance et l'accompagnement des projets de création d'entreprise portés par les étudiants ou étudiantes, ou également des jeunes diplômés, avec l'organisation des comités d'engagement au statut national étudiant-entrepreneur.
Pour que cette notion soit un peu moins floue et en espérant que cela vous inspire, nous avons rencontré plusieurs professionnels reliés à l'Université de Nantes qui exercent des fonctions ou ont développé des projets liés à l'entrepreneuriat. Monsieur Goudot est un professeur de notre DUT Information et Communication. Il a la particularité d'avoir été également à la création et à la tête de La Bulle, une médiathèque troisième lieu. Louison, tu as pu récolter plus d'informations sur son projet ?
Oui, en effet, Elena, lors d'un entretien, il m'a expliqué son projet, sa réalisation, en passant par ses difficultés. Il m'a également donné quelques conseils pour les étudiants souhaitant se lancer dans l'entrepreneuriat.
Donc, bonjour Monsieur Goudot. Vous avez accepté de participer à notre émission pour nous partager votre expérience d'auto-entrepreneur. Pouvez-vous d'abord vous présenter ?
Bonjour Louison. En quelques mots, donc, je suis enseignant à l'IUT de La Roche-sur-Yon, au département information communication, notamment dans les métiers du livre et en charge également des projets tutorés. Je suis également formateur pour de nombreux professionnels du livre sur l'ensemble de la France dans différents organismes et pour différentes questions autour de l'action culturelle, la bande dessinée, les établissements troisième lieu. Et également membre du comité de rédaction de la revue 303, pour lequel j'ai été directeur éditorial d'un numéro spécial sur la bande dessinée. J'interviens pour la revue Page également des libraires. Et voilà, j'ai différentes autres activités, mais on va dire que globalement, c'est cela.
C'est un parcours varié. Donc, vous avez eu un projet d'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus donc, sur celui-ci, sa création ? Qu'est-ce que c'était votre idée ? Quand est-ce que vous l'avez créé ?
Disons que dans ma carrière, j'ai eu la chance effectivement de créer l'établissement culturel de mes rêves. Un établissement donc, qui est la bulle qui se situe à Mazé, en, en Anjou, dans le Maine-et-Loire. Et cette idée-là, en fait, je l'avais depuis longtemps. Je l'avais quand j'étais étudiant en infocom, en métier du livre, où j'avais l'idée, alors pas forcément que ce soit d'ailleurs un établissement public, hein, j'étais pas du tout dans cette perspective-là, puisque d'ailleurs j'étais en librairie et en édition, donc j'étais pas en bibliothèque. Mais voilà, d'une sorte de lieu, on parlait pas encore de troisième lieu, on parlait pas, voilà, de ces lieux de vie qui viennent à croiser les publics, les pratiques, autour d'une même volonté de vivre ensemble. Mais en tout cas, un lieu qui soit facile d'accès, voilà, où tout le monde puisse se rencontrer autour de valeurs communes, notamment évidemment des valeurs culturelles et celles de l'échange. J'avais cette idée-là, et puis au fur et à mesure, j'ai eu l'opportunité, la possibilité de réaliser, voilà, ce projet d'établissement, et qui s'est concrétisé. Alors évidemment, ça a mis une dizaine d'années, mais qui s'est concrétisé avec son ouverture le 8 septembre 2012, et voilà, qui a pris une ampleur que j'imaginais pas forcément initialement, puisque c'est aussi un pôle ressources régionales sur la question de la bande dessinée, en plus d'être une médiathèque, enfin un centre culturel, on va dire, au sens large, avec un atelier de création à proximité, une maison des artistes pour les accueillir pour des résidences longues, un travail éditorial qui l'accompagne, enfin plein de choses.
Donc le projet en soi a mis combien de temps à se créer, au total, si on résume?
En fait, je ne différencie pas tant les étapes, à savoir au moment où j'ai pu arriver dans la collectivité, au moment où s'est vraiment déclenché le projet. On va dire que les premières idées arrivent entre les premières idées et l'ouverture. En fait, ça a été très rapide. Généralement, c'est pas le temps habituel. Là, c'est une demi-décennie, simplement. En 5 ans, le projet était fait.
D'accord.
Voilà, ce qui est un temps très, très court, notamment pour un établissement public. Dans le privé, évidemment, ça se réalise plus rapidement.
Et donc, le nom La Bulle, comment est-ce que vous êtes arrivé à choisir ce nom?
Eh bien, en fait, ce qui semble important pour un établissement, quand on réfléchit à son nom, c'est essayer d'y intégrer un maximum de valeurs. Voilà, les valeurs qui vont vraiment guider l'établissement. Et ce qui fait qu'on a fait un travail tout simple. On a listé, voilà, toutes les valeurs que cet équipement-là, cette structure devait incarner. Et puis, on a essayé de trouver des noms, on a mis en face, voilà, de cette liste de valeurs. Et finalement, La Bulle, c'était celle qui était capable, ça portait bien son nom, mais capable d'en englober, voilà, le maximum. Et c'était celle-ci. En sachant qu'il n'y a jamais un nom qui est parfaitement satisfaisant, certaines valeurs ont été mises de côté, que le nom La Bulle ne pouvait pas l'incarner. Mais voilà, ça s'est passé ainsi.
D'accord.
Donc c'est un long brainstorming, évidemment.
Donc après, le nom, c'est peut-être pas le plus dur. Quelle a été la plus grande difficulté dans tout ce projet?
Il y en a eu pléthore, c'est difficile de...
Vous en avez une à retenir, celle qui vous a posé le plus de soucis.
Je dirais pas que c'est forcément celle qui m'a posé le plus de soucis, mais c'est celle dont je me rappellerai. Puisque un chantier... voilà, un chantier, c'est forcément du retard, systématique. On avait prévu, alors bon, dans le rétro-planning originel, on devait ouvrir, c'est plus peut-être début 2011, enfin tout ça, voilà, c'est vu reculer, mais on avait encore la maîtrise du rétro-planning, et finalement, on avait statué qu'on ouvrait, et c'était très bien, puisqu'on travaillait en saison culturelle, donc en septembre 2012. Et au mois de juillet 2012, tout le monde vient me voir, le maire, l'architecte, l'adjoint à la culture, le directeur des services techniques, le directeur des travaux, tout ça. Et on me dit, on ne peut pas ouvrir en septembre. Alors, il y avait des retards monstrueux, notamment les vitres. Ça peut paraître assez bête, mais qui étaient des formats assez particuliers, très grands, qui venaient de Norvège, qui étaient fabriqués en Norvège. Enfin,
petite difficulté.
Oui, on a eu des gros problèmes au niveau de la maçonnerie, avec des mauvais murs qui ont été percés, enfin bon, des choses assez ubuesques, assez incroyables. C'est arrivé, et du coup, on me dit, on n'ouvre pas. Et je réponds à cela, non, on ouvrira. Puisque, évidemment, il y avait énormément d'engagement auprès des partenaires qui avaient évidemment participé au financement, à la création de cet équipement. Auprès des artistes aussi, parce qu'il y a une grosse programmation culturelle qui était déjà complètement statuée, arrêtée, hein, pour toute l'année. Et puis, bah, surtout, parce que c'est le plus important, les publics. Voilà, on ne pouvait pas leur faire ça. Et puis, on se discréditait auprès d'un public absolument énorme. C'en était fini. Et donc, c'est ça dont je me rappelle le plus. Et pour vous dire, on a ouvert avec des vitres en plexiglas.
D'accord.
Provisoire. Voilà.
Ok, bah comme quoi, il faut aller au bout.
Ah oui, il faut aller au bout de ses idées. Donc, mais on aurait ouvert sous une tente que ça aurait été pareil. Enfin, voilà,
Ça
serait ouvert quand même. Mais voilà, on avait des vitres en plastique pour commencer.
Bon, c'est déjà un bon début.
C'est ça.
C'est quand même très chronophage, du coup, l'entrepreneuriat. Et comment est-ce que vous avez réussi à... Enfin, est-ce que vous réussissiez en même temps que ce projet à vous évader sur d'autres choses, votre vie personnelle? Ou est-ce que vous étiez vraiment que sur votre projet pendant cette période?
Pendant cette période, ça n'a été que cela, notamment toute la période de préparation, conceptualisation, voilà. Non, il y avait quasiment que ça, en fait. Voilà. C'est un choix après, hein. C'est un choix de vie, c'est le choix de mener à terme un projet qu'on avait à cœur, mais pas grand chose puisse être vécu de façon personnelle.
Et vous étiez associé à d'autres personnes pour la création du projet?
Alors, il y a eu au tout début du projet, il y avait deux autres personnes qui sont parties en cours de route, en fait. Et ensuite, il y a eu des équipes, une équipe qui s'est constituée, évidemment, qui a pris part de façon aussi volontaire au projet. Mais oui, bien sûr, il fallait une équipe assez solide pour mener un projet d'envergure et aussi ambitieux. Ouais.
Et vous avez quitté donc votre projet, mais pour quelle raison? Parce que vous vouliez changer ou...
Une saturation, je crois que un tel projet, voilà, demande tellement de vous qu'au bout d'un moment, il faut le laisser. Et puis en même temps, c'est toute la beauté de ce type de projet, parce que j'ai souvent répété que c'était mon deuxième bébé, mais en même temps, c'est un bébé que vous savez que vous ne garderez pas, enfin voilà, qui continuera à vivre. À vivre sa vie, à grandir sans vous. Et en même temps, c'est une bonne chose, parce qu'il faut qu'il ait des parents différents. C'est un établissement culturel, il faut qu'il soit riche de rencontres, de conduites également. Et c'est très bien ainsi, en fait. Dans d'autres mains, avec d'autres façons de voir, d'autres philosophies, sachant qu'il y a quand même un concept de base qui est posé, hein, qui restera. Et de toute façon, cet établissement restera, c'est du dur. Voilà, avec un public nombreux, des équipes dynamiques, des artistes conquis, donc voilà, tout y est.
Aujourd'hui, vous êtes fier de votre projet
Ah oui, j'en suis extrêmement fier. Après, à savoir si je repartirais dans ce genre de projet, je ne pense pas. Ce type de projet, je pense qu'on le fait une fois, de création d'une telle entreprise, en fait, d'un tel établissement. Je pense.
Et il ressemble à votre idée de rêve que vous aviez quand vous étiez étudiant?
En mieux.
En mieux.
Il a été bien plus grand, bien plus exceptionnel que ce que je pouvais penser. Même si parfois j'imagine que dans mes rêves d'étudiant je le pensais aussi fabuleux, mais voilà, je pensais pas à ça forcément réalisable. Et puis il y a plein de choses auxquelles j'avais pas pensé et que d'ailleurs d'autres ont pensé. Enfin voilà, c'est resté quand même un gros travail collectif à partir d'une envie. D'un projet que je voulais mener.
Au niveau des conseils que vous pourriez donner à des étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont des rêves comme ça, qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
D'abord d'avoir un projet.
Oui, c'est mieux.
D'abord d'avoir une idée. Ça me semble absolument essentiel. D'avoir ensuite l'envie de mener cette idée, avec ce que ça suppose en termes d'investissement personnel, en termes d'opiniâtreté, en termes de détermination. Ça, il faut en avoir conscience. Et que si on n'a pas cette volonté, si on n'a pas cette capacité de travail qui doit l'accompagner, ça risque d'être compliqué. Donc donc se dire que ça va être un investissement au long cours, qui risque parfois d'être douloureux, enfin, de savoir s'entourer, de gens aussi qui peuvent accompagner le projet jusqu'à son terme pour qu'il puisse se réaliser, parce que nombre de projets, d'idées qui n'aboutissent pas, il en existe aussi, il en existe beaucoup. D'être constant, d'être extrêmement généreux. Voilà, constant, généreux, pour moi c'est les deux plus grandes qualités. Et en même temps, c'était Jacques Brel, mais c'était plus pour la santé mentale, mais qu'il le disait, mais je pense que c'est nécessaire pour mener à bien un projet, c'est de garder une part de naïveté. C'est-à-dire, même si on a bien étudié tout son environnement, voilà, qu'on l'a appréhendé, il faut rester naïf, il faut rester rêveur, sinon on n'y arrive pas en fait. Si à un moment on voit le monde tel qu'il est, les limites telles qu'elles sont, ça n'aboutit pas.
Merci beaucoup.
Bah merci.
Et puis, bonne continuation dans tous vos projets.
Merci. Et puis, surtout, réalisez les vôtres.
Merci beaucoup.
Cette première interview nous a permis de découvrir l'entrepreneuriat dans le domaine culturel. Passons maintenant à Damien Dufour, qui, quant à lui, est un entrepreneur dans le domaine informatique. Voyons et écoutons un peu son parcours.
À la tête de la société Oranet, société spécialisée en services et ingénierie informatique, a su développer un savoir-faire et une expertise dans l'édition des systèmes informatiques, reconnus depuis plusieurs années dans différents domaines.
Bonjour, alors mon entreprise est située dans le sud de la Vendée à Fontenay-le-Comte. On est une PME d'une soixantaine de personnes et on travaille exclusivement pour les collectivités territoriales françaises. On est éditeur de logiciels. Et on fait pour nos collectivités territoriales une solution qui s'approche d'une solution de Smart City. C'est une solution informatique qui permet de gérer tous les services disponibles pour les citoyens dans des collectivités de type métropole ou agglomération. On va retrouver dans les services qu'on gère l'accès au sport comme les piscines, les salles de sport, l'accès également à tout ce qui est environnement, la collecte des déchets, la gestion des déchetteries, mais également tout ce qui va se situer autour de l'enfance-jeunesse. C'est plus qu'un produit, c'est un concept. C'est ce fameux concept où les citoyens ont accès à tous les services d'une collectivité à travers une seule application. Aussi bien pour s'inscrire, s'enregistrer, acheter des places de concert ou des places de piscine par exemple. Puis après, c'est utiliser ces inscriptions pour aller directement à la piscine pour ouvrir le tripode ou dans une salle de sport pour ouvrir la porte. J'en suis le président directeur général.
Pour ce projet et comme il le dit lui-même ce concept, il a reçu un trophée régional de l'innovation en 2015 qui l'a aidé à se développer et à construire sa renommée.
On était dans une période où on était en déficit d'image, donc on a fait un gros travail sur cette partie-là et c'est vrai que cette innovation, ce prix, nous a permis de nous faire vraiment une publicité qui a été positive pour nous.
Damien Dufour est aussi passé par les bancs de l'école avant de se lancer dans ses différents projets de vie, adepte des DUT et des masters.
J'ai commencé par un DUT, donc je peux en parler de manière très positive, ça a été vraiment une très belle expérience pour moi. Je fais un DUT de génie mécanique que j'ai obtenu en 92. 92, c'était le début des crises en France et je ne me sentais pas prêt en plus à aller sur le marché du travail. Donc j'ai poursuivi par un master en informatique. Suite à ce master-là, j'ai trouvé du travail dans une entreprise d'informatique. J'ai fait après deux ou trois entreprises et je me suis senti une âme d'entrepreneur justement. Donc vers 40 ans, j'ai créé ma propre entreprise. J'étais assez fort dans tout ce qui était la partie responsabilité de projet ou direction de bureau de recherche et développement. Et je donnais des prestations en tant qu'auto-entrepreneur. Et un chef d'entreprise de Fontenay-le-Comte est venu vers moi en me disant « Non seulement je veux que tu m'aides pour mon bureau d'études, mais je souhaite aussi que tu prennes ma suite ». Je ne me sentais pas forcément prêt, il me manquait beaucoup de choses, beaucoup de cordes à mon arc. Et j'ai repris mes études, j'ai refait un master donc, de finance et de gestion pour avoir ce complément d'information qui me permette maintenant de gérer une entreprise et donc d'avoir ces doubles cordes à mon arc, et financière, et gestion, et technique. J'ai travaillé déjà dans deux autres entreprises, dont une assez grosse qui s'appelle GFI. C'est une entreprise internationale qui est une société de services informatiques.
En plus de sa fonction de PDG au sein de l'entreprise Oranet, M. Dufour est président au conseil d'institution de l'IUT de La Roche-sur-Yon depuis septembre 2018, qu'il allie avec sa connaissance de l'entrepreneuriat. Cette expérience lui apporte une vraie ouverture d'esprit par un DUT qui voue une vraie préoccupation pour des jeunes.
Alors au début, je suis rentré dans le conseil d'institut pour des raisons très directes pour mon entreprise, c'est qu'on avait des problématiques de recrutement et le meilleur moyen pour recruter, sachant que nous, on a des métiers qui se prêtent bien aux formations qui sont dispensées à l'IUT, c'était d'être présent au conseil d'administration pour mieux comprendre le fonctionnement de l'IUT. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis un peu prêté au jeu. L'idée, c'est vraiment maintenant de voir comment nous, en tant qu'industriels ou en tant qu'entrepreneurs, on peut accompagner l'IUT pour essayer de le rendre plus performant et plus proche des préoccupations de nos entreprises. Et puis l'objectif, c'est également d'essayer de faire un peu la communication pour les entrepreneurs, pour ancrer l'image de l'IUT, qui est une excellente formation.
Puisque l'entrepreneuriat est accessible aux étudiants, Damien Dufour, en PDG, nous livre ses trois précieux conseils pour réussir à entreprendre.
Pour moi, l'entrepreneuriat, ce qui est lié à la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, alors c'est vrai aussi qu'il y a plein de types d'entrepreneuriat. On peut créer une idée, on peut être auto-entrepreneur, on a beaucoup de solutions. Moi, celle que je maîtrise le mieux, c'est l'entrepreneuriat avec de la création d'emplois. Et si j'avais des conseils à apporter dans ce cadre-là, c'était d'avoir... Pour moi, il y a trois blocs qui sont très importants. Le premier, c'est l'empathie. On ne peut pas embaucher des personnes ou travailler avec des personnes si on n'a pas cette facilité à aller vers l'autre, à discuter et à trouver des choses positives dans tout ce qui est fait. La deuxième chose qui pour moi est très importante, et là je pense que c'est pour tout type d'entrepreneur, c'est l'étonnement. L'étonnement, c'est cette qualité d'observation du monde, regarder ce qui se passe et être surpris par tout un tas de nouveautés qu'on pourrait intégrer dans nos savoir-faire et d'être toujours à l'écoute de toutes ces nouveautés-là. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et la dernière forme de concept aussi, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi ce ne serait pas moi qui entreprendrais et qui mettrais mes savoir-faire en avant ? Qui est une forme d'ambition, hein. Il faut être un peu ambitieux pour être entrepreneur. Elle me semble très importante. Il faut l'intégrer à ses valeurs.
Après ces précieux conseils, rencontre avec Madame Fraioli, qui est impliquée dans l'entrepreneuriat étudiant de la Courtaisière, campus universitaire de La Roche-sur-Yon.
Bonjour Madame Fraioli, vous êtes professeure de management, responsable des licences professionnelles. Vous gérez également la comptabilité et la PLIUT de La Roche-sur-Yon. Et une de vos dernières casquettes est d'être la référente entrepreneuriat dans le département GEA. Avant d'aborder votre rôle de référente entrepreneuriat au sein du département, pourriez-vous nous donner votre parcours professionnel ?
Alors, je vais juste corriger, hein, je ne suis pas responsable de l'ensemble des licences pro hein, sur l'IUT, je suis juste responsable de la licence pro comptabilité paye. Et oui, effectivement, depuis 2 ans, je suis référente entrepreneuriat sur le campus. Alors moi, je suis professeure agrégée d'économie gestion commerciale. J'ai eu un parcours plutôt d'enseignement du secondaire, en filière STMG, en BTS et un parcours un petit peu à l'étranger de prof toujours. Et je suis arrivée à l'IUT de La Roche-sur-Yon il y a 4 ans dans le département GEA. Et dans ce département GEA, dans cette formation, en fait, on a dans le programme pédagogique national un module qui s'appelle création d'entreprise, en fait, hein, qui est destiné normalement aux étudiants de deuxième année de gestion et management des organisations. Et donc, je suis rentrée dans ce module en organisant un séminaire un petit peu de création d'entreprise en réunissant tous les étudiants de GEA de deuxième année. Et c'est un petit peu parti comme ça sur ma volonté de sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat en général.
D'accord, donc vous êtes référente entrepreneuriat depuis 2 ans.
D'accord. Oui, c'est la deuxième année. Donc mon rôle de référente alors sur le campus, donc c'est aussi destiné aux étudiants du CUD, hein, du Centre Universitaire Départemental. Donc là, le rôle est de faire un petit peu le lien entre la mission entrepreneuriat de l'Université de Nantes, qui a été créée aussi il y a 2 ans, et un autre organisme qui s'appelle aussi le PEPIT, hein, qui est le pôle entre étudiants, transfert, l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un organisme un peu plus régional. Donc mon rôle est de faire le lien entre ces deux entités, mission entrepreneuriat, Université de Nantes et PEPIT, et puis les étudiants du campus de la Courtaisière à La Roche-sur-Yon. De faire le lien, de détecter s'il y a des étudiants qui souhaiteraient créer leur propre entreprise, sensibiliser ceux-ci, leur donner de l'information sur les concours de l'entrepreneuriat qui sont organisés sur le territoire et détecter éventuellement des profils pour leur dire que l'Institut les accompagne dans leur projet.
D'accord, merci. Et vous managez plusieurs projets donc sur l'IUT, le département GEA. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les projets que vous managez, en quoi ça consiste ?
Oui, alors c'est vrai que là, ce que je viens de dire, ça s'adresse un petit peu de façon générale à tous les étudiants du campus. Mais moi, je suis prof dans le département GEA, donc je vais plus spécifiquement sensibiliser mes étudiants de GEA. Et donc, l'occasion pour le faire, c'est de les encadrer sur des projets tutorés. Et donc depuis 3 ans maintenant, on propose dans la liste des projets tous les ans aux étudiants GEA un projet qui s'appelle CréaUT et on leur propose aussi de participer à un concours qui est organisé sur le territoire qui s'appelle les entrepreneuriales. Et puis aussi un autre concours qui s'appelle le Green Startup. Enfin, il y a pas mal de dispositifs, mais en tout cas, pour cette année, j'encadre 2 projets, un CréaUT et puis un sur les entrepreneurs. Alors sur le projet CréaUT, ça consiste... Alors CréaUT déjà c'est une association hein, au niveau national qui réunit des professeurs d'IUT qui sont plutôt profs dans les départements GEA, technique de commercialisation, GACO, gestion administrative et commerciale. Et nous sommes une association qui promeut également l'entrepreneuriat étudiant. Et donc au sein de cette association, il y a des concours qui sont organisés. dont un qui s'appelle, qui va primer des projets qui consistent à réunir des étudiants, constituer une équipe qui va accompagner un porteur réel de projet. Donc là, moi, sur le territoire de La Roche-sur-Yon, depuis 3 ans maintenant, j'essaie de trouver des porteurs de projets de création d'entreprise, des porteurs réels. Et je réunis une équipe d'étudiants qui va accompagner ce porteur sur quelques mois et qui va l'assister dans ses démarches de gestion pour créer l'entreprise. Donc là, cette année, on a un groupe qui accompagne un jeune homme qui a un projet d'ouverture d'une librairie à La Roche-sur-Yon. Donc ça, c'est le premier projet. Et puis après, donc le projet des entrepreneuriales, là on s'insère vraiment dans un concours qui est organisé par plein d'organismes, dont le réseau Entreprendre Vendée, et qui consiste à réunir des équipes pluridisciplinaires. Donc moi là j'ai 3 étudiants GEA qui travaillent avec une étudiante du département Infocom, et puis un étudiant de l'EGC, et qui crée un projet fictif d'entreprise. Et d'ailleurs, la finale de ce concours aura lieu le 28 mars à Nantes. Et donc, l'équipe devra présenter devant un jury leur projet de création d'entreprise. Et donc, pendant 8 mois, ils sont allés sur le terrain pour valider leur idée.
Donc, c'est une rencontre de professionnels pour les aider dans leur travail, dans leur travail de création d'entreprise pour les entrepreneuriales.
Oui, alors c'est vrai que là, les étudiants sont encadrés par un coach et un parrain qui sont issus du monde professionnel et qui va leur ouvrir en fait leur réseau. Et là, pour le groupe de cette année qui veut créer un service d'aide à domicile pour les démarches administratives, ils ont été amenés à rencontrer des concurrents qui sont déjà en place, des agents immobiliers pour simuler la location d'un bail commercial, d'un local commercial. Ils sont allés rencontrer des comptables pour les aider à bâtir leur projet financier. Donc c'est une expérience très riche pour eux, puisque depuis vraiment quelques mois, ils sont vraiment sur le terrain et ils expérimentent leur idée. Et c'est vraiment l'essence même du programme des entreprises, qui est le learning by doing, en fait. Donc c'est en allant sur le terrain, en se confrontant à des professionnels qu'ils apprennent, en fait. Et je pense qu'ils vont sortir vraiment enrichis de cette expérience.
D'accord. Et est-ce que vous avez mené d'autres projets d'entrepreneuriat à l'extérieur de l'IUT ou vous-même réalisé un projet d'entrepreneuriat ?
Non, à l'extérieur de l'IUT, j'en ai pas eu l'occasion. Maintenant, sur le format CréaUT, ce qui était intéressant, il y a 3 ans, donc on a accompagné une jeune fille qui voulait faire un food truck et qui a effectivement ouvert. Donc c'est vrai que depuis, je suis à peu près l'aventure. Et puis depuis que je suis concernée par l'entrepreneuriat, c'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui ont des projets et qui vont faire appel à moi pour que je les guide un petit peu, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas moi qui me lance, malheureusement. Mais j'accompagne pas mal de mes connaissances, de mes amis. Et ça commence à venir, là, l'idée, puisque je publie pas mal sur les réseaux sociaux également. Donc, j'ai des amis et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont des projets de créa de ce type-là. Et je suis ravie de les accompagner un minimum sur leurs projets.
Donc, ça ne serait pas pour tout de suite pour vous de vous lancer dans l'entrepreneuriat ?
Non, alors c'est vrai qu'aussi il y a une année, donc il y avait la food truckeuse là, qui était bien sympa, et une autre année où on avait un porteur de projet qui voulait créer un service de transport doux hein, sur La Roche, notamment pour livrer des commerçants, et il cherchait du financement. Bien sûr, hein, parce que tous les créateurs d'entreprises en sont à ce stade-là au départ. Et ça m'a donné envie de l'aider, de me lancer aussi dans le financement, de devenir associée passive, par exemple. Mais bon, ça ne s'est pas fait parce que le projet n'a pas été mené à son terme. Mais dans un premier temps, je pense que j'irai plutôt sur le mode financement, aide au financement et puis apport un petit peu de compétences. Mais moi, je suis trop bien dans mon métier aujourd'hui pour le lâcher, bien que ça soit peut-être compatible, hein, il faut voir. Mais là, je suis un petit peu sur plein d'autres petits projets. La responsabilité de la licence me prend pas mal de temps aussi. Donc, c'est un petit peu compliqué de se dégager du temps. Mais en tout cas, je suis ravie de pouvoir accompagner des étudiants et des porteurs de projets à mon niveau, quoi.
Et si jamais, du coup, vous créez une entreprise, ça serait quel type d'entreprise qui vous motiverait dans le futur, peut-être, éventuellement ?
Ouais, alors bon, c'est vrai que là, ce que je dis aussi aux étudiants, c'est d'être très ouvert, de faire de la veille hein, informationnelle sur des idées de création d'entreprise. Je leur dis beaucoup qu'il faut parfois regarder ce qui se passe à l'étranger et puis voir si l'idée peut être faisable en France ou de toute façon que l'idée, s'il n'y a pas de marché, elle n'existera pas. Donc il faut vraiment faire attention aux manquements actuels. Et là, je ne sais pas, moi, vu mes compétences en tant que formatrice, je pense que je créerais plutôt quelque chose dans le domaine de la formation. Sur des métiers comme le codage, des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est déjà dépassé. Le problème, c'est que ça va vite. Hein. Le temps d'avoir l'idée et de la mettre en place, ça peut aller vite. Mais oui, une création d'école, des choses comme ça sur la formation ou de consulting ou de coaching pour allier avec mes compétences de formatrice.
Très bien. Et au niveau formation, justement, quel type de formation vous pensez que ce serait important d'avoir pour les étudiants? Est-ce que l'entrepreneuriat, ça devrait rentrer dans tout type de formation?
Alors, c'est vrai que c'est des compétences de gestion avant tout. Hein. Et le programme GEA, c'est pour ça qu'il s'y prête vraiment bien, parce qu'il y a des aspects marketing. Hein. D'ailleurs, je suis prof de marketing, ce qui est la base de la création d'entreprise. Je vous disais, sans marché, il n'y a pas d'entreprise possible. Donc, compétences en marketing, compétences ensuite juridiques, hein, pour savoir quel statut juridique adopter pour avoir une fiscalité aussi qui soit adaptée. Et puis, compétences financières, hein, de gestion financière. Donc, c'est beaucoup de gestion. Donc, ça, c'est des compétences qui peuvent s'acquérir. Je le vois via le programme des entrepreneuriales. Les équipes sont parfois constituées d'écoles d'ingénieurs, d'étudiants d'écoles d'ingénieurs, de bio, etc. Et avec une formation en gestion, on peut allier les deux, quoi, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc, ça pourrait être un petit module qui soit enseigné dans toutes les formations, en fait. Hein, de gestion, ça peut être très court, hein, une vingtaine d'heures suffisent pour former au béaba de la création d'entreprise. Après, ce que je trouve aussi intéressant pour les GEA, c'est que les GEA sont exclusivement des compétences de gestion et tous les projets fictifs qu'ils proposent vont être des projets plutôt tertiaires. Et ce que je regrette, c'est que ce ne soit pas des productions, des fabrications de produits matériels, par exemple, où là, ils doivent faire appel à des compétences plus techniques. Mais si on allie les deux, je trouve ça génial, quoi, hein, l'aspect technique plus l'aspect compétences de gestion pour mener à bien ce projet.
D'accord. Et du coup, pour terminer notre entrevue, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner donc à des étudiants, des futurs étudiants qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans une des aventures CréaUT ou les entrepreneuriales ou un autre projet, tout simplement une idée?
Oui, alors la question, c'est les conseils. Sur la création d'entreprise en tant que telle, c'est vraiment d'être curieux, hein, de bien observer l'environnement, de ne pas avoir peur de se lancer et puis de partir de l'idée qu'on peut alterner des périodes de salariat classiques un peu plus rassurantes et puis des périodes de création d'entreprise où on peut peut-être mener les deux projets en même temps. Donc de ne pas hésiter à se lancer, ça sera pour leur future vie professionnelle. Et du coup, profiter vraiment de ce qu'offre l'écosystème local. Donc là, il y a plein de concours, d'hackathons qui sont organisés par la mission entrepreneuriat notamment et par le Pépite. Donc c'est gratuit en général. Donc je conseille vraiment d'être curieux, même si l'entrepreneuriat ça vous intéresse pas dans un premier temps, mais de prendre tout ce qu'il y a à apprendre, de rencontrer un maximum d'entrepreneurs, d'être curieux, d'aller sur le terrain, de poser des questions et de participer au programme. Les entrepreneuriales, E-Green Startup, on a aussi les Innovation Campus Day tous les ans en octobre à l'Université de Nantes. Enfin, de participer à tout ça. Il y a le passeport armorique, il y a énormément de dispositifs à dispo des étudiants. Donc, profitez de ces programmes pour voir si ça vous plaît et puis peut-être par la suite vous lancer, quoi.
D'accord. Merci. Et je viens d'avoir aussi une autre question à vous poser qui m'est venue. Est-ce que vous pensez donc que l'entrepreneuriat étudiant pourrait être une solution pour pallier à la crise économique actuellement?
Alors, pas une solution en tant que telle, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Et parfois, j'ai des collègues, notamment dans le milieu universitaire, qui prônent pas forcément l'entrepreneuriat, qui veulent rester sur des dispositifs plus généraux, hein, d'acquisition de connaissances, de compétences. Mais je pense que ça peut être une voie complémentaire, une alternative au salariat, comme je vous le disais. Après, ce qu'on a entendu aussi, c'est la création d'entreprise à 1 euro il y a quelques années, lancez-vous, etc. Bon, c'est un peu plus difficile que ça. Hein. Déjà, il faut réunir des fonds, il faut être très, très disponible. Bon, les fonds, c'est en fonction de l'idée. Hein. Ça peut ne pas représenter des fonds énormes, mais il faut être très disponible, il faut avoir l'envie, il faut être motivé. Et bah, pourquoi pas, mais ça ne peut pas pallier à la crise actuelle. Mmh. C'est une solution parmi d'autres, mais qui relève de chacun, quoi.
D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie pour notre entrevue et très bonne continuation.
Merci, Louison.
Maintenant que nous avons eu le témoignage de deux professionnels de l'entrepreneuriat et l'explication de la gestion d'un projet d'entrepreneuriat étudiant avec Madame Fraioli, car comme vous l'avez compris, l'entrepreneuriat n'est pas seulement accessible à partir de 45 ans, nous écouterons les témoignages d'étudiants après la musique « How do you get so cool » de Same Name Confusion. Une musique proposée par Clément, étudiant à l'ICAM, venu nous parler à l'émission précédente de son potager d'appartement. Pour la petite anecdote, Clément a découvert ce groupe de musique lors d'un voyage en Espagne l'année dernière où il a rencontré un ami de ce groupe.
Just
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur la troisième émission d'Hashtag Info, présentée par moi-même et Elena Garcia. Vous êtes étudiant et vous vous demandez si l'entrepreneuriat est fait pour vous. Vous avez peur de vous lancer? Nous avons récolté pour vous des témoignages qui, nous l'espérons, pourront vous convaincre que l'entrepreneuriat s'est ouvert à tous.
Tout de suite, le parcours d'une étudiante qui s'est investie dans un de ses projets. Bonjour Lucille, tu es étudiante à l'IUT GEA sur le campus universitaire de La Roche-sur-Yon. Tu participes à un projet d'entrepreneuriat nommé Créa IUT. Peux-tu nous présenter rapidement le projet ?
Alors bon, je m'appelle Lucille, j'ai 20 ans, donc je fais partie du projet Créa IUT. Donc le projet Créa IUT, c'est aider un porteur de projet à monter son entreprise. Et normalement, c'est un concours. On doit participer à un concours avec notre business plan, on doit participer à un concours pour peut-être gagner quelque chose.
Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?
On a commencé en mai de l'année dernière, parce qu'on avait une deadline à remplir, donc il fallait qu'on fasse une fiche de lancement de projet, une to-do list et un diagramme de Gantt pour pouvoir démarrer le projet sous les meilleurs auspices.
Et du coup, quel a été exactement votre projet cette année ?
Alors notre projet cette année, c'est d'aider un ancien étudiant en licence LEA à monter son salon de thé librairie en Vendée. Donc là, il voulait le faire à La Roche-sur-Yon, mais avant, il voulait le faire sur les Lucs de Boulogne, les Lucs sur Boulogne. C'est pas forcément la meilleure solution, donc on lui a plutôt conseillé La Roche-sur-Yon. Et donc ça s'est relativement bien passé, même si le projet n'aboutira finalement pas.
Est-ce que vous êtes un peu déçu ?
On est forcément déçu de ne pas voir le projet aboutir tout de suite, mais peut-être un jour il le fera, parce que pour monter une librairie ou un salon de thé, enfin surtout une librairie, il y a quand même beaucoup de normes à respecter, notamment le fait que notre porteur de projet n'a jamais travaillé en librairie et il faut avoir minimum travaillé 2 ans en librairie pour pouvoir ouvrir sa propre librairie. Donc d'un côté on se dit on est déçu de pas le monter tout de suite et de pas participer au concours, mais d'un autre côté on lui aura fait tous les documents possibles pour qu'il puisse aller voir les investisseurs pour monter son projet quand il en sentira le besoin et quand il se sentira prêt.
Qu'est-ce que ce projet vous a permis d'acquérir comme compétences ?
On a acquéri de nouvelles compétences, c'est vrai, mais il nous a surtout permis de mettre en application toutes les notions qu'on a vues depuis 2 ans en GEA, donc tout ce qui est notion de marketing, management, etc. Et donc, en termes de nouvelles compétences, ça nous a appris à faire des sondages pour faire des études de marché. On a des sondages, à faire un business plan, faire un plan de financement, des choses qu'on n'avait pas encore vues l'année dernière. Donc, ça permet vraiment de continuer GEA, en fait.
Et vous êtes combien sur ce projet ?
On est 4 étudiantes, 2 en option comptable et 2 en option management.
Le conseillerez-vous à des futurs étudiants en génie biologique ?
Je pense que ça peut les aider, mais par contre, il faut quand même avoir de sérieuses notions en gestion. Parce que si un porteur de projet vient pour créer IUT, c'est pas pour monter son entreprise. Il faut quand même avoir des notions en management, en marketing, en comptabilité pour pouvoir être sûr de monter la boîte. Après, ça dépend du porteur de projet. Si c'est pour monter quelque chose qui est propre au génie biologique, je les conseillerais de le faire ce projet. Mais vraiment, il faut quand même avoir des notions en gestion. De plus, je conseille aussi, si je le conseille à de futurs GEB, ce serait bien, mais à faire en partenariat avec les GEA, parce que les GEA ont les notions en gestion, et si les GB ont un porteur de projet qui manque de notions en sciences, etc., ça peut être réellement intéressant.
Très bien, merci beaucoup Lucille.
De rien.
Maintenant que nous avons découvert le concept de Créa IUT, partons à la découverte des entre-ups, autres projets étudiants.
Bonjour Noémie et Maria.
Donc
bonjour. Vous êtes deux étudiantes en IUT GEA en deuxième année et vous participez au projet des entrepreneuriats. Depuis combien de temps avez-vous entendu parler de l'entrepreneuriat dans votre vie ?
Alors pour ma part, j'en ai entendu parler lors de la porte ouverte du DUT GEA. Lors de la visite, j'en ai entendu parler, j'avais déjà comme optique de le réaliser pendant mon cursus. Et donc, c'est de là, en fait, qu'est née mon envie de participer à ce projet.
Alors, moi, j'en ai entendu parler l'année dernière, lorsque je suis venue en IUT GEA. Donc, je me suis renseignée sur quelles sont les activités qu'on peut faire en dehors des cours. Donc, dès que j'en ai entendu parler, ça m'a attirée, puis j'ai voulu participer à ce concours.
Qu'est-ce que c'est exactement les entrepreneuriales ? Est-ce que vous pouvez nous le décrire en quelques phrases ?
Tout d'abord, les entre-ups, c'est un programme d'entraînement terrain à la création d'entreprises, 100% gratuit et ouvert à tous les jeunes post-bac.
Nous avons voulu participer à ce concours car c'est un programme qui est très complet et il nous a permis de mettre en pratique tous les éléments théoriques que nous avons appris dans notre DUT GEA. Et nous avions également le goût du challenge et de la compétition.
Oui, moi j'en ai entendu parler dès la première année que je suis arrivée en GEA et ça m'a attirée. Donc je me suis intéressée et le fait qu'on soit encadré, c'était un plus en fait pour en plus apprendre à créer une entreprise. C'est vraiment une expérience à faire.
Et est-ce que c'est quelque chose de très valorisant pour l'avenir sur votre CV par exemple?
Oui, alors on reçoit même une petite post-it qui certifie notre participation, ce qui prouve en fait notre motivation, la responsabilité que nous avons pour participer et mener un tel projet en fait. Nous pouvons le mettre sur notre CV, donc ce qui valorise nos compétences.
Pouvez-vous nous décrire votre innovation entrepreneuriale, donc votre projet sur les entreprises?
Nous avons dans notre entourage repéré que nos grands-parents avaient du mal à réaliser leur démarche. C'est de là en fait que notre idée de création d'entreprise est née. Nous avons voulu aider donc les personnes qui n'arrivent pas à réaliser seules leur démarche et en parallèle aider également les personnes, les CSP+, donc les travailleurs sup qui travaillent énormément, qui ont peu de temps libre. Donc en fait, on voudrait subvenir à leurs besoins. Voilà.
Comment s'est déroulé le projet sur toute l'année? Est-ce que vous avez eu donc de l'aide? Vous avez parlé de parrains tout à l'heure.
Alors le programme des entreprises dure 5 mois, de novembre à mars. Tout au long de ces 5 mois, nous sommes accompagnés par un coach qui est là pour nous booster dans cette création et un parrain qui est un chef d'entreprise. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par notre coach qui s'appelle Sophie Bassin, qui travaille actuellement à l'agglomération de La Roche-sur-Yon.
Elle est responsable foncier et immobilier.
Voilà. Et puis Nabil Jenny, qui est dirigeant de l'entreprise O2 à Luçon. Nous avons également une 9 soirées thématiques dans lesquelles nous avons eu la chance d'être accompagnés par des professionnels, des créateurs d'entreprises. Et nous avons, lors de ces soirées, pu apprendre toutes les étapes essentielles de cette création.
Et nous étions également toujours entourés de notre prof Sabine Fraioli, qui était tout au long de l'année avec nous pour nous aider quand nous en avions besoin.
D'accord. Et donc vous étiez un groupe, vous ne nous l'avez pas rappelé au début, mais de 4 étudiants, c'est ça?
On était 5 étudiants.
5 étudiants, oui.
Oui, nous sommes... Alors, toutes les équipes devaient être constituées d'étudiants de diverses formations. Donc, nous, de notre équipe, nous avons Tiffaine Elaya, qui est une étudiante en première année de DUT Information et Communication. Donc, elle s'est occupée de toute la partie communication. Nous avons également dans notre équipe Alexandre Gervais, qui, lui, est étudiant à l'école de commerce. Et donc, nous sommes 3 étudiants... Noémie et Bastien et moi, Maria, on participe du coup à ce projet tous ensemble.
Très bien. Et donc le but final de votre projet, donc les entrepreneuriales, c'est quoi le but à atteindre au final?
Alors cette expérience nous amène à après passer devant un jury qui se déroulera le 28 mars. Donc nous allons présenter notre projet de création, toutes les étapes qui nous ont permis d'arriver jusque-là. Et il faut qu'on soit convaincant devant eux pour montrer que notre projet est viable. Et ensuite, il y a des lots à gagner pour les groupes qui sont les plus innovants et les plus à même de montrer que notre projet est viable.
Ok. Et est-ce que donc cette expérience d'entrepreneuriat, donc première expérience, j'imagine, est-ce que ça vous a motivé et boosté pour en réaliser d'autres à l'avenir et voire même peut-être vous lancer dans la création d'entreprise plus tard?
Alors oui, ce projet nous a, enfin moi pour ma part, ça m'a donné envie, pourquoi pas, de créer un jour mon entreprise. Et c'est vrai que ce concours nous a permis aussi de rencontrer beaucoup de professionnels et nous créer un bon réseau. Et puis cette aventure, c'est toutefois une aventure très enrichissante et qui nous fera gagner, c'est sûr, en expérience.
Oui. Moi, j'avais depuis l'année dernière, en fait, j'avais déjà le projet de participer à ce concours parce que j'ai également l'idée de créer une entreprise plus tard, pourquoi pas. Et j'aimerais bien refaire ce concours l'année prochaine. Oui.
D'accord. Dans toujours la filière GEA ou?
Ce sera dans une IAE et ils proposent plusieurs projets, donc ce projet également. Donc voilà.
D'accord, super. Et donc, est-ce que vous conseilleriez à de futurs étudiants en GEA ou même dans d'autres filières de participer donc à ce concours multidisciplinaire ?
Oui, nous conseillons à toutes celles et ceux qui peuvent se lancer dans cette magnifique aventure très enrichissante de le faire.
Merci beaucoup Noémie et Maria pour votre intervention et on vous souhaite plein de chance pour le 28 mars.
Merci beaucoup. À vous.
Écoutons également un autre témoignage d'étudiants qui sont en école d'ingénieurs et qui eux aussi ont participé au projet des entrepreneuriales.
Bonjour Hugo, Sam et Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes trois étudiants de l'ICAM en deuxième année. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois d'entrepreneuriat ? Guillaume.
Alors, l'entrepreneuriat au sens large, après c'est un mot je pense qu'on entend beaucoup quand on est jeune et tout ça, mais je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de son sens au début. Moi j'ai vraiment commencé à comprendre en tout cas ce qu'on nous demandait à travers l'entrepreneuriat dans les années lycée, avec les différents projets qu'on a pu mener. Et après, je me suis rendu compte, après coup, je me suis dit peut-être, oui, ce que j'ai fait, en fait, avant, était peut-être déjà de l'entrepreneuriat sur certains points. Mais après, l'entrepreneuriat, je ne pourrais pas mettre de date concrète sur le moment où j'ai entendu parler. Hein.
Moi, en tout cas, je pense que l'entrepreneuriat, ça a été, à mon sens, découvert vraiment pour ma part, donc dans les années lycée, avec notamment les TPE qui ont permis de se retrouver, en fait, sur une problématique, à travailler, en fait, à devoir chercher un thème sur lequel on doit s'aventurer et on doit creuser des capacités techniques. Et donc, de ce fait, on a dû aller de l'avant et aller un peu tout seul et découvrir du coup ce sujet-là. Et c'est ce qui m'a poussé, je pense, à découvrir un peu le monde entrepreneurial et poussé aussi à faire du coup les entreprises plus tard, donc avec une équipe pluridisciplinaire.
Et donc, pour ma part, comme l'a dit Sam, j'ai commencé à découvrir, on va dire, ce domaine d'entrepreneuriat dans le courant des années lycée, avec les différents projets que j'ai pu mener, notamment en première et en terminale, où il fallait travailler en équipe et puis voilà, chercher à développer des idées.
Après, c'est vrai que en fait, le sens entrepreneuriat, nous, qu'on l'entend comme ça, bon, à travers ce qu'on est en train de faire en ce moment, on pense tout de suite peut-être à la création d'une sorte de mini-entreprise et tout ça. Mais en soi, le terme entreprendre, c'est pas seulement dans ces projets-là, quoi. Ça va vraiment être dans sa vie. À ce moment-là, on se dit, tiens, j'ai envie d'entreprendre dans le sport, dans l'activité particulière. Et là, on s'y met vraiment à fond, on crée des choses, quoi, par rapport à ça. Donc, en fait, au final, c'est beaucoup plus large, je pense.
Oui, c'est peut-être aussi le goût du leadership, d'avoir envie de mener aussi les autres. Notamment à travers le sport, ça a pu se ressentir, pour moi en tout cas, quand j'étais plus jeune. Mais voilà, on n'avait peut-être pas cette notion d'entrepreneuriat comme on l'a aujourd'hui, qui est du coup portée plus sur le domaine professionnel et plus sur du coup, l'invention aujourd'hui et la création d'une nouvelle chose en fait.
Surtout dû au fait à nos études.
Du coup, vous êtes dans le projet des entrepreneuriales depuis combien de temps exactement ?
Oula.
Nous,
on nous a présenté le projet l'année dernière quand on était en première année. On s'était dit que ça pourrait être intéressant de le faire. Et en fait, pour participer aux entreprises, c'est l'un des points forts, c'est qu'il faut avoir une équipe pluridisciplinaire donc qui vient de différentes écoles.
Voilà. Et moi, l'année dernière, donc, j'avais un ami à moi qui était à l'EGC qui m'avait parlé des entreprises déjà l'année dernière, qui avait évoqué l'idée en fait, de le faire. Et avec Guillaume, on avait aussi parlé. Donc, de ce fait-là, on avait déjà un peu prévu en avance qu'on allait du coup faire potentiellement un groupe. Et après, on en a entendu parler, je dirais fin septembre, début octobre, où il y a eu des réunions pour s'inscrire et donc déposer notre candidature.
D'accord. Et donc, vous êtes combien dans votre projet aujourd'hui ?
Donc, du coup, nous, dans notre projet, on est 5. Donc, 3 étudiants de l'ICAM en école d'ingénieur, donc nous 3. Et 2 en école de commerce, donc Théo et Aubin, qui ne sont pas présents actuellement.
D'accord. Et donc, justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre projet ? Qu'est-ce que c'est ? D'où vous est venue l'idée ?
Alors, ça s'appelle Ernest, déjà. On peut commencer par ça. Alors, pourquoi ce prénom ? Ce nom, on va vous dire après pourquoi. Il s'agit en réalité d'un sèche-parapluie intelligent, un porte-parapluie intelligent, comme on peut en trouver dans les commerces autour de chez nous. On va dire, voilà, on met un parapluie mouillé dedans. Et la problématique, nous, qu'on avait, c'est de dire, mais, au final, on peut rendre cet objet qui paraît, au prime abord, peut-être pas forcément utile, on peut le rendre vraiment utile et efficace sur plusieurs points. Et du coup, on a commencé à évoquer différentes choses, notamment le fait de le sécher.
On voulait aussi insister sur le fait que l'appareil soit autonome. Donc on a aussi mis en place un système de détection d'eau qui permet en fait de fermer le circuit électrique lorsqu'on met en contact un parapluie ou un tissu humide. Ensuite, on a voulu aussi insister sur le côté design, puisque forcément en France, il ne pleut pas tous les jours, pour rendre aussi le meuble utile hors des périodes de pluie, et donc avoir un véritable élément de décoration comme on pourrait acheter un meuble classique.
Et donc pour appuyer ces propos et notamment l'utilité lors des jours de beau temps, on a décidé de développer notre produit avec un support de communication qui permettrait notamment aux commerces et aux entreprises de développer leur image de marque en inscrivant ce qu'ils souhaitent sur une façade arrière de notre produit. Et également, on s'est penché sur la récupération de l'eau au fond du porte-parapluie. Et cette récupération d'eau se ferait direction un pot de fleurs, ce qui permettrait de...
D'éviter de jeter l'eau, on va dire. D'éviter
de jeter l'eau et de... Nos clients gèrent de vider l'eau au fond d'un bac.
Oui, c'est
et
pas donc, voilà, la contrainte gérer, de vider l'eau qui est souvent amenée par les commerçants. Et là, pour le coup, on s'est dit, peut-être qu'on peut trouver un truc comme ça.
Est-ce que vous avez trouvé des concurrents sur le marché sur votre parapluie?
Alors justement, les concurrents ne sont pas directs puisqu'il n'existe pas aujourd'hui réellement de sèche-parapluie. On a vu au Japon, c'est ça?
Ouais, en Chine surtout.
Dans les pays asiatiques.
Ouais, grande période de mousson souvent.
Voilà, une solution un peu alternative qui serait en fait d'utiliser des sacs plastiques pour mettre les parapluies dedans et ne pas mettre de l'eau partout. Sauf que bon, les sacs plastiques, c'est pas très bon
pour l'écologie.
Et puis, vu le nombre de personnes qui passent dans les centres commerciaux par jour, ça fait un peu mal de voir ça. Et puis sinon, il y a un prototype qui a été créé.
Encore
dans un pays asiatique. Toujours pour pallier au problème des moussons. Avec du coup, une sorte de tissu absorbant sur lequel on viendrait frotter notre parapluie. Je ne pense pas, en tout cas, pas notre connaissance qui ne soit commercialisée, et encore moins en France.
Ouais, je pense, ouais.
Donc vous avez des chances, vous pensez, de gagner le concours des entrepreneuriales.
Alors entre les concurrents directs sur le marché et les entrepreneuriales, il y a une différence un petit peu aussi, c'est que donc nous on simule un peu la création d'une entreprise, sauf qu'en fait on ne va pas être mis en concurrence avec les produits similaires à celui qu'on est en train de réaliser, mais on va être mis en concurrence avec d'autres jeunes, d'autres étudiants qui ont des idées dans plein d'autres domaines. Donc il y a des idées parfois qui sont super, que nous on se dit putain mais pourquoi on n'a pas eu cette idée là avant, parce que vraiment c'est top. Donc au final on ne sait pas trop à quoi s'attendre quand on arrive là-bas et on se dit waouh, enfin même si nous on pousse le truc à fond, au final il suffit qu'il y ait quelqu'un derrière qui ait une idée beaucoup plus simple sur un domaine complètement différent, et il peut à ce moment-là aussi nous passer devant. Donc je pense qu'on a nos chances, on a bien travaillé dessus, mais à mon avis la concurrence sera assez rude.
Enfin ouais, en tous les cas on y va pour gagner.
On va pas se mentir.
Non, et puis faut aussi savoir que voilà, on a tous des idées différentes, et que pour gagner le concours des entreprises, ça se base pas que sur l'idée d'innovation, ça se base aussi sur tout ce qu'il y a derrière pour gérer notamment la création de l'entreprise. Et donc ça, voilà, on peut pas le voir sans le dossier du coup qu'on doit rendre pour le concours.
Donc vous avez un gros dossier à rendre qui est composé de plusieurs parties, j'imagine.
Oui, bon, on a un dossier de 15 pages.
Une quinzaine de pages maximum.
Voilà, on a une vidéo. On nous conseille de faire une vidéo aussi pour parler un peu tout le côté marketing, on va dire.
Communication
ouais. Plutôt. Parce que du coup, cette année, c'est un peu différent. C'est qu'il y a différents. C'est pas seulement un prix à la fin qui va être décerné, c'est.
Plusieurs prix.
Plusieurs prix, avec le prix de la vidéo, le prix de la Dream Team, le prix de plein de trucs. Donc en fait, au final, c'est pas seulement d'avoir l'idée qui est intéressante, voilà. C'est comment on arrive à la mener jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça devient intéressant, et que quand on est une bonne équipe, ça marche bien, c'est qu'on arrive à mener l'idée jusqu'au bout avec super esprit.
Et puis je dirais aussi le deuxième point fort des entreprises du programme, c'est de proposer aussi une formation assez générale sur la création d'une entreprise. Et même si notre projet n'est pas viable à long terme, même si on n'a pas tout réussi comme on pourrait l'espérer au tout début du projet, on aura toujours des bases sur comment on pensait une idée, avoir le pourquoi avant de créer son produit, savoir
c'est
faire
une méthodologie un peu en fait.
C'est exactement, ça, ouais. Un peu une méthodologie globale qui permet de savoir, voilà, on crée une entreprise, on sait par quelle étape il faut passer, on sait qu'il faut se renseigner par rapport au contact, au fournisseur, il faut comparer plein de choses. C'est une réelle expérience au final qu'on a, et ce qui permet aussi à la fin d'avoir un petit macaron sur son CV qui certifie,
qu'on connaît en tout cas le monde de l'entrepreneuriat,
qu'on a développé des compétences dans le monde de l'entrepreneuriat.
Voilà.
Et j'ai entendu dire aussi que dans les entrepreneuriales, vous aviez des parrains. Est-ce que vous avez eu des parrains du coup qui vous ont beaucoup aidé dans votre création?
Donc parrain et coach, ouais, en effet. Un parrain et un coach par équipe. Mais on a également aussi des personnes qui nous ont suivis tout au long du programme, donc durant ces 5 mois. On avait des soirées appelées Soirées Tools qui étaient organisées souvent les jeudis soirs, donc à raison d'une dizaine sur les 5 mois. Et on rencontrait des professionnels qui nous aidaient à développer notre projet. Et donc par rapport à notre parrain et notre coach, ils étaient là pour faire un point notamment sur tout ce qui était avancé du projet pour vérifier que voilà, on soit bien dans les dates limites pour arriver à concrétiser notre projet.
Et du coup, ce que j'aimerais ajouter, c'est que notre coach, donc c'était un expert comptable, enfin, c'est toujours un expert comptable d'ailleurs, et donc elle permet d'avoir une approche sur toute la partie économie, plan financier. Et notre parrain, lui, était plutôt un spécialiste de l'entrepreneuriat, pour le coup. Et il nous a vraiment été utile parce que à chaque fois qu'on le voyait, il repensait notre produit. Et à chaque fois, c'était une remise en question. Et au final, on a réussi à se baser sur quelque chose qui nous plaisait, mais... notre produit a vraiment pu évoluer, je pense, grâce à lui, parce qu'il a toujours remis en question notre produit. Et nous, on s'est remis en question aussi et pensé à faire parfois plus simple ou différemment. Et je pense que sans cette personne, on n'aurait pas le produit qu'on a aujourd'hui.
Et l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez pensé à d'autres projets d'entrepreneuriat dans votre vie ou même dans vos ambitions futures? Est-ce que vous pensez vous-même créer une entreprise, peut-être sur ce sèche-parapluie ou autre chose?
En termes d'expérience, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que ce porte-parapluie, il a gagné déjà, sèche-parapluie, pardon, il a déjà gagné il y a quelques années une médaille d'or au concours Lépine Junior, ce que j'avais présenté à l'époque. Et après ça, j'avais réalisé aussi une gouttière génératrice d'électricité qui avait aussi remporté un prix au concours Lépine et dans d'autres concours aussi à côté. Donc oui, l'entrepreneuriat comme ça, ça a déjà été fait. Après, pour mener le projet de sèche-parapluie jusqu'au bout, là, Ernest, qu'on est en train de développer jusqu'ici, d'ailleurs, j'ai dit qu'on allait dire un truc sur le nom. en fait, c'est qu'on a décidé de faire quelque chose qui était assez made in France, même dans la démarche. Et on trouvait ça marrant d'avoir un nom un peu ancien comme ça, sachant que ça pouvait aussi
se référer
à une sorte de vallée un petit peu qui prend le parapluie pour le sécher, qui un peu qui vient t'aider pour sécher ton parapluie. Donc voilà pour la petite parenthèse pour le prénom.
Ouais.
Et sinon, du coup, après, pour continuer, pour l'instant, on ne sait pas trop encore. On est en deuxième année d'école d'ingénieur, on a encore 3 ans devant nous qui vont sûrement être très remplis. Donc je ne pense pas qu'on se remettra dessus d'ici là. Par contre, après coup, moi je sais que c'était un super projet, mais je pense pas continuer réellement à entreprendre de ce côté-là. Moi, je pense avoir fait le tour de la question avec ce truc-là et pour plein de choses, parce qu'après, l'entrepreneuriat, c'est très large, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, il y a peut-être d'autres produits, parfois, on va dire, plus utiles, même si le sèche-parapluie reste utile, en tout cas, peut-être, c'est le plus essentiel qui sont à réfléchir.
Moi, je pense que c'est une bonne expérience. Donc, là, déjà, de faire ce programme-là entièrement, pour moi, c'était donc une nouveauté, parce que j'avais jamais eu l'occasion de participer ou de créer des choses auparavant dans ma jeunesse. Maintenant, le fait de reprendre d'autres projets comme ça, ce sera peut-être après les études, parce que du coup, là, on a quand même des échéances qui vont arriver ces prochaines années. Mais pourquoi pas, du coup, la création d'une entreprise plus tard, je pense, quand on aura déjà un pied dans le milieu professionnel et qu'on aura des idées plus claires sur ce quoi on peut progresser et on peut développer un domaine d'activité.
De la même façon qu'a pu dire Sam, c'est vraiment, pour ma part, après avoir... mis un pied dans le monde de l'entreprise et du monde professionnel, et surtout que je pourrais débuter des projets, on va dire, entrepreneurial, parce que on peut pas se lancer comme ça sans connaître tout ce qui se cache derrière une entreprise, et puis notamment avoir différentes connaissances techniques en plus de ce qu'on peut avoir à un niveau du scolaire.
D'accord, donc vous conseilleriez ce projet ou même d'autres projets entrepreneuriat aux étudiants?
Carrément, ouais, c'est une super expérience. Hein. Mmh. Et puis, quelle que soit la discipline, nous on est en école d'ingénieur, donc on pourrait se dire entrepreneuriat, école d'ingénieur, ça va pas mal ensemble, école de commerce aussi, mais en réalité il y a plein d'autres écoles hein, qui rejoignent le projet, faut que ça soit pluridisciplinaire, et chacun apporte sa pierre à l'édifice, et donc franchement c'est à faire, hein. C'est une super expérience aussi au niveau gestion d'équipe groupe. Ça, c'est top. Hein.
Ça s'est bien passé dans votre groupe, donc la gestion.
Oui, super. Même presque mieux que ce qu'on espérait, puisqu'au final, ça a vraiment matché. Au-delà de l'aspect professionnel, ça a vraiment matché entre nous. Ça arrivait à la fin de la réunion, on allait manger ensemble, on se voit, on rigole, on est tout le temps dans la déconnade. Vraiment, je pense qu'on a un très très bon groupe là-dessus. Surtout que c'est un peu encourageant de voir ça, parce qu'on a vu surtout d'autres équipes qui, elles, se sont désintégrées. Et puisque les personnes étaient diamétralement opposées et que
Pas les mêmes idées.
Voilà, les idées n'étaient pas les mêmes, les caractères ne matchaient pas forcément, et parfois des personnes avaient des idées différentes d'autres, et selon les caractères, ça allait plus ou moins bien ensemble. Mais nous, je pense qu'on est une équipe qui vit très très bien. Et
c'est ce qui fait qu'on a pu réussir à concrétiser notre projet et
à lancer le truc jusqu'au bout. Après, on ne sait pas jusqu'où on ira, en tout cas avec le concours, mais. Enfin, jusque-là, en tout cas, rien que pour ça et pour les potes, on va dire qu'on s'est fait, ça vaut le coup, vraiment.
Non, et puis par rapport à ce qu'on s'était fixé au début, c'était-à-dire de créer un prototype et puis voilà.
Créer un prototype, une vidéo et tout. Et tout est OK. Et on est content de nous, je pense qu'on est assez fiers de nous et c'est l'essentiel aussi de ce côté-là. Quoi.
Donc ça sera le plus de poursuivre l'aventure.
Et est-ce que vous auriez une dernière phrase à faire passer sur l'entrepreneuriat pour des étudiants ?
Au sens large.
Au sens large.
Moi, je pense que je dirais un truc, c'est que quand on est jeune, on a un crédit qui est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas hésiter de se lancer en entrepreneuriat quand on est jeune, et faut pas, enfin, disons que dire on va entreprendre plus tard, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Parce que quand on est jeune, quand on va proposer une idée, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on développe, les gens autour de nous vont donner un très grand crédit. C'est-à-dire que beaucoup de spécialistes vont venir te voir, et pour l'avoir vécu, moi, c'est un truc qui m'a fait énorme plaisir. C'est-à-dire qu'on va te voir et on dit « Bon, t'es jeune, ton invention n'est pas parfaite, ce que tu proposes, c'est pas parfait, et c'est parce que t'es jeune, parce que tu manques encore d'expérience, mais c'est génial ce que tu fais jusqu'ici. Déjà, à ton âge, c'est top. » Et ça, c'est quelque chose, c'est pas du tout le même dialogue qu'on aurait avec un adulte. C'est-à-dire que si un adulte, aujourd'hui, débarque de nulle part et arrive « Bon, bah voilà, j'ai fait un sèche parapluie », pour donner l'exemple, au final, on va lui dire « Bah oui, mais... Enfin, laisse ça aux professionnels. Il y a des gens aujourd'hui qui sont ingénieurs, ils ont été formés, ils savent pourquoi ils font ça, et eux, ils savent faire, donc laisse-leur faire ça, quoi. Alors que quand t'es jeune, au moins, enfin, tout de suite, t'es au même niveau avec tout le monde. Et alors, surtout, n'hésitez pas, quoi, dans ce niveau-là. Donc, pas seulement au niveau des inventions, mais partout autour de vous, quand plus vous vous imitez vite et jeune, plus vous allez avoir du crédit, plus vous allez pouvoir monter, faire des concours. Les gens, ils vont dire, même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, j'en sais rien, mais en tout cas, vous aurez des personnes qui vous suivront et qui diront, c'est top là ce que t'es en train de faire. T'es en train de te développer des qualités pour la suite et ça va être génial. Donc voilà, ça, j'en ai un petit message, je pense, important à faire passer. J'aimerais bien faire passer ça.
Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas avoir peur. Parce que, en fait, pour moi, la peur, c'est la première chose qui serait un frein, en fait, à tout avancer dans notre vie, en fait. Parce qu'au final, si on a peur de se dire, voilà, bon, cette année, peut-être, j'aurai pas le temps, peut-être que le projet n'aboutira pas, bah ok, peut-être que ça aboutira pas, mais entre temps, on aura quand même fait énormément de choses et passé énormément de temps dessus. Et je pense que si on avait tous démarré avec des craintes, en se disant, voilà, je pense pas avoir le niveau de faire ça, même si on n'a pas forcément confiance en nous, en nos capacités, en se disant, voilà, je suis pas très très fort, peut-être que j'arriverai pas à finir le produit, j'aurai peut-être pas les meilleurs matériaux, le meilleur projet, les meilleures idées. Mais si on se pose déjà ces questions-là avant même de commencer, bah, au final, on va se freiner, avoir peur du projet et ne pas se lancer. Et du coup, passer à côté de quelque chose qui pourrait en fait nous aider, nous ouvrir des portes, nous donner des contacts, rencontrer des gens. Et nous apporter en fait une expérience qu'on n'aurait pas eu si on avait eu cette peur, cette crainte de commencer.
D'accord, merci beaucoup Sam.
Et puis donc pour finir, faut vraiment se lancer, c'est une super expérience l'entrepreneuriat, faut pas hésiter, on développe de nombreuses compétences et puis il n'y a rien de mieux que de concrétiser un projet et de voir que voilà, on est capable. Rien de mieux pour la confiance en soi, voilà. On part d'une idée de zéro et on se fixe des objectifs et quand on les réussit, c'est vraiment satisfaisant pour sa personne.
Merci beaucoup Hugo. Merci beaucoup à vous trois, Hugo, Sam et Guillaume. Et puis très bonne continuation dans vos projets. Bonne chance pour jeudi prochain.
Ouais, on y croit. Merci.
Faisons une petite pause musicale après ces deux témoignages en écoutant une seconde musique du groupe Same Name Confusion nommée David, What Are You Afraid?
How many afraid of a couple of things? Scaring bears and having to McDonald's under pressure. Getting caught sipping milk in the backroom fridge, or pushing someone into depression. Shirts and I'm on no shirts, and there's pretty girls around all working hard for no reason. Do you ever get the feeling?
Da-da-da.
You're working hard for no reason.
Da-da-da.
Do you ever get the feeling?
Da-da-da.
Working hard, you work hard.
À tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur la troisième émission d'Hashtag Info, présentée par Louison Génicelle et Elena Garcia. Nous espérons que nous avons pu vous convaincre que l'entrepreneuriat c'est possible chez les jeunes, ils en parlent et les pros aussi. Bien que la plupart des jeunes et des étudiants n'en entendent pas forcément parler, cette pratique tente de devenir de plus en plus accessible. Si vous êtes motivé, avez envie de réaliser votre rêve, saisissez votre chance et n'attendez plus pour vous lancer.
L'émission touche à sa fin, on vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur le site Hashtag Info et nous contacter pour participer à nos prochaines émissions. Merci à tous les intervenants d'avoir accepté de participer et de témoigner pour notre émission sur l'entrepreneuriat. Merci donc à Madame Fraioli, Monsieur Goudot, Monsieur Dufour, Maria, Noémie, Lucille, Guillaume, Sam, Hugo.
Nous tenons également à remercier Lionel et Graffiti pour son accueil et à vous, chers auditeurs, on vous dit à la prochaine fois.